France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
C'est l'histoire d'une princesse dont on découvre qu'elle en est une vraie parce qu'un petit poids, placé sous une pile de 20 matelas, l'empêche de passer une nuit agréable. C'est l'histoire d'un canard, un peu trop gris pour être aimé, d'une petite fille qui meurt de froid à force d'avoir trop rêvé d'être au chaud, d'un soldat de plomb unijambiste amoureux d'une danseuse en équilibre, d'un empereur prêt à parader nu plutôt que de risquer de passer pour un idiot. On aura reconnu quelques-unes des intrigues, réduites ici à leur plus simple appareil, des contes d'Andersen. Où donc ce dernier a-t-il puisé l'imaginaire de ses contes ? Sont-ils issus d'un folklore, d'une tradition orale de contes populaires, ou bien de sa seule imagination ? Qu'est-ce qui fait le style, la patte d'Andersen ? Qu'est-ce qui le différencie de Perrault ou encore des frères Grimm, ses contemporains ? En 1981, Pierre Descargues consacrait 3 émissions à l'étude de la vie et l'œuvre d'Andersen pour la série « Un homme, une ville ». Après s'être intéressé dans les 2 premiers épisodes au parcours d'Andersen et à ses autres œuvres littéraires, il se penchait pour conclure sur les contes. Avec le folkloriste Claude Guaignebet, il donnait à entendre ce qui fait leur originalité, leur saveur et leur singularité. Un homme, une ville, Hans Christian Andersen à Odense, 3e et dernier épisode, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 mars 1981.
La ville d'un petit canard, oui. Tu connais l'histoire ?
Le thème, mais je connais pas bien.
Tu connais le thème, mais pas bien. Attends, que je retrouve le petit canard. Je peux te lire un petit passage ?
Mmh.
Hein ? Du petit canard ? Tu connais pas l'histoire ?
Mmh.
Alors, je te lis juste un passage, comme ça tu... L'hiver fut extrêmement froid. Le caneton dut tout le temps nager dans l'eau pour l'empêcher de geler complètement. Mais chaque jour, le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Une croûte s'y formait qui craquait. Le caneton devait toujours y jouer des pattes afin que l'eau ne se fermât pas. Il finit par être si épuisé qu'il ne bougea plus et resta gelé, pris dans la glace. Le matin de bonne heure arriva un paysan qui le vit, brisa la glace avec ses sabots et l'emporta chez lui pour le remettre à sa femme. Là, ils furent animés. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais ils croyaient qu'il lui voulait du mal et se sauva tout effrayé, droit à la terrine du lait, si bien que le lait jaillit dans la salle. La femme cria et battit des mains et il s'envola dans la baratte où était le beurre, puis dans le tonneau à farine. Quelle mine il avait en sortant de là! La femme criait et voulait le frapper avec des pincettes, et les enfants couraient et se renversaient l'un l'autre pour l'attraper, et c'était des rires et des cris. Heureusement, la porte était ouverte, et le caneton se sauva parmi des buissons couverts de neige récente, et y resta comme engourdi.
Un homme, une ville, Hans Christian Andersen à Odense, en Fyonie, au Danemark, et partout où il y a des enfants qui lisent ses contes et qui ne les oublieront jamais.
Mais ce serait trop triste de raconter toute la misère qu'il dut subir par cet hiver rigoureux. Il était dans le marais parmi les roseaux lorsque le soleil redevint brillant et chaud. Les alouettes chantaient. C'était un printemps délicieux. Tu sais comment ça commence, cette histoire ? Non ?
Si.
Juste le début, oui.
Le début, je le connais, c'est une dame canard.
Comment ça s'appelle, une dame canard ?
Une poule, je crois.
Une poule ?
Une poule, plutôt.
Une poule, tu crois ?
Et
une dame canard ? Non, non, c'est pas, je crois pas que ce soit une poule.
C'est...
Tu crois, hein ? Non, une poule, ça donne quoi ? Des poussins. Mais une
oui.
Dame canard, c'est une canne, non ?
Oui, moi, j'avais vu une poule.
Ah, t'avais vu une poule ?
Dans un dessin animé, il montrait le début, c'était un peu un feuilleton de dessin animé.
Oui.
Et il montrait le début, mais après, je n'ai pas pu suivre les autres épisodes.
La suite.
Hans Christian Andersen, trois émissions de Pierre Descargues et d'Eliane Millot, prise de son Daniel Labigne, mixage Jean-Paul Herbert, avec à Odense Nils Oxenvad, conservateur de la maison Andersen, Claude Gainbay, folkloriste, et à Paris la jeune Emmanuelle, 8 ans, qui lit et relit les contes avec ses amis comédiens André Dussolier et Catherine Laborde.
Mais enfin, là, comme c'est un petit canard... Comme c'est un petit canard, la mère doit être sûrement une canne, quand même, non? Enfin, c'est sûr,
oui, je te le dis. Oui, mais parce que les œufs ont été mélangés.
Non. Alors, attends, non, ça. C'est-à-dire, c'est une canne qui a des petits canards, enfin, qui a des œufs, c'est ça? Et alors, il y a quelques petits canards qui naissent, puis il y a un œuf, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un œuf qui reste plus longtemps, alors elle va se retourner.
Plus longtemps, c'est-à-dire...
Qui reste plus longtemps fermé.
Ah oui.
Alors après, elle va le couvrir encore, puis après, il se casse. Lui, une canarie à la dame, ils étaient blancs, jaunes.
Oui.
Et celui-là était tout blanc.
Tout blanc, oui.
Ouais. Tout blanc. Gris plutôt mais aussi.
Plutôt gris, oui. Il avait quand même, il n'était pas très très joli, non? Enfin, oui. C'est une particularité.
Oui.
Il était même carrément laid.
Oui.
Hein? Et alors, qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais pas trop par la suite.
Parce qu'après, il va chez les poules et les dindons. Après, il va partout.
Oui, parce qu'il est tellement laid qu'il est rejeté partout. Mmh. Alors, il va dans la nature. Et c'est pour ça qu'il lui arrive des tas d'histoires, qu'il se trouve comme ça, pris au milieu de la classe. Et tu sais comment ça finit, l'histoire, non?
Quoi, je crois, oui. Après, il va dans un groupe de cygnes.
Oui.
Et après, il voit les mêmes canaris que lui. Il va avec eux. Et puis, là, c'était une maman cygne. Et puis après, il grandit, puis il devient un cygne.
Et il s'en va avec les cygnes.
Hans Christian Andersen, troisième et dernière émission, entièrement consacrée au conte, et qui s'ouvre par une visite à l'endroit où le jeune garçon découvrit l'imaginaire populaire.
Peut-être on peut entrer. Allô? Un moment.
Nous voici dans la cour de l'hospice des Frères Gris à Odense. C'est un bâtiment en briques, la cour est rectangulaire, la neige est fidèle au rendez-vous. Et les portes sont vastes, on voit du bois partout, les fenêtres doubles. Et des constructions, des sortes de pignons comme ça qui nous font penser un peu à des béguinages ou à des cloîtres en Hollande. On n'est pas dépaysé du tout. Et c'est ici que Hans Christian Andersen venait quand il était petit.
Il venait quand il est là comme enfant parce que sa grand-mère avait quelque chose à faire ici. Elle n'était pas résidente de cet hospice, mais elle a soigné le jardin du directeur de cet hospice, et c'est pourquoi Andersen est venu ici avec elle. Et avec elle, il a écouté aux chansons, aux récitations dans la salle où s'assemblaient les vieilles femmes. La plupart des habitants étaient des femmes, mais il y avait des hommes aussi. Mais là, Andersen a rencontré cette tradition de raconter les contes populaires et chanter aussi.
Alors imaginons, les femmes sont rassemblées à un travail manuel, je ne sais pas trop lequel.
De faire le fil.
Elles filent,
oui, c'est
donc
ça.
Donc c'est calme et pour se distraire pendant ce travail manuel un peu le même toujours.
Oui, pendant le travail, on raconte, on bavarde, on cause, n'est-ce pas? Et Andersen a écouté. Et ce qu'il a écouté, il a gardé dans sa mémoire. Et beaucoup plus tard, il les a employés dans ses contes. Je peux raconter que c'est pas le dernier, mais le dernier avant le dernier. Est-ce qu'on dit l'avant-dernier ou...
L'avant-dernier, oui.
Il a écrit un conte intitulé « Ce que racontait la vieille Jeanne ». Et la vieille Jeanne, c'était une vieille femme qui était résidente dans cet hospice. Et elle a raconté comme on pouvait mettre le pot sur le feu si on désirait avoir un personnage qui, par exemple, une jeune femme, si son amant est loin d'elle, elle met le pot sur le feu et puis, par quelque force magie, elle peut rattraper le mari ou le fiancé. Oui, c'est ça. C'est raconté par Andersen en 72. Et peut-être il a écouté 1815, je crois.
Oui, il a pas oublié. Et pour lui, c'était précieux. Alors, une question peut-être technique. Est-ce que, à l'époque où il a écouté ses contes étaient déjà recueillis par des folkloristes ou non ?
Non, pas encore. Pas encore, non. C'est toujours les contes qui sont transmis de génération à génération. Mais c'est à l'époque où on les a recueillis ici. Andersen a donné beaucoup d'histoires à un ami qui a recueilli ces histoires, qui s'appelle Thiel. Et maintenant, on discute au Danemark si Andersen a employé les histoires publiées par Thiel ou c'est Andersen qui a donné les histoires à M. Thiel. C'est une question à résoudre.
En tout cas, la curiosité pour le conte populaire, elle naît avec Andersen. C'est la curiosité de l'époque.
C'est la période romantique, n'est-ce pas? C'est l'âme du peuple, n'est-ce pas? Volksgeist.
Encore un mot sur les femmes qui étaient ici. Pas toutes malades, pas toutes impotentes, toutes pauvres.
Toutes pauvres, et il y avait beaucoup de malades, parce que dans l'hospice, il y avait un petit hôpital pour les malades. C'est le commencement d'un système avec des hôpitaux dans cette région du Danemark. Oui. Il y avait aussi un coin pour les fous, les folles. Et Andersen raconte aussi, comme il a visité, parce qu'il était curieux, il a regardé les folles dans leurs cellules. Et il y avait dans une cellule une jeune femme, très jolie, et tout nude. Et elle l'a regardé, l'enfant, qui la regarde aussi. Puis elle a tombé sur lui. Et naturellement, Andersen, le petit Andersen, est choqué par cet événement. C'est aussi raconté dans l'autobiographie. Elle a chanté. Elle est belle et elle a une voix très belle, mais elle est folle.
Et aujourd'hui, dans cet hospice, que se passe-t-il?
C'est encore un hospice. Pas pour les pauvres, parce qu'il y a très peu de pauvres au Danemark de notre période.
Est-ce que les vieilles femmes qu'il a rencontrées là, est-ce que ça évoque plus ou moins pour lui, disons, des femmes qui savent soigner, c'est d'ailleurs finalement un peu des sorcières?
Oui, la vieille Jeanne que j'ai mentionnée pour lui, elle était une sorcière. Et c'est la même femme qui a fait la prophétie de Odense à être illuminée en son honneur. Elle a fait cette prophétie dans le café ou dans une poule, je ne sais pas.
Comment les folkloristes aujourd'hui considèrent-ils Andersen, l'homme des contes, Claude Gainbay?
Il développe dans ses contes, il donne dans ses contes des éléments qui peuvent être relus par un folkloriste et qui peuvent être utiles, peut-être presque plus utiles que s'il avait simplement recueilli des contes. C'est très, très curieux parce que il a une sensibilité telle qu'il a senti une bonne partie de, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire populaire, pour parler très vite, de sorte qu'il intègre à l'intérieur de contes populaires traditionnels des éléments d'abord de pensée, de mentalité de son époque, sûrement, mais de mentalité populaire, bien souvent. Et je pense que des détails qui ont rarement été isolés par les spécialistes du folklore méritent de l'être. L'intervention des fêtes populaires, par exemple. Il a senti qu'un certain nombre de contes populaires devaient se situer dans ces cadres. L'intervention de grands rythmes comme les migrations, qui pour lui, les migrations des oiseaux, qui marquent les saisons, ou alors des éléments comme le calendrier, qui apparaissent assez souvent, montrent qu'il avait senti qu'il y avait au fond une relation qui apparaît rarement dans le conte populaire entre, disons, ce qu'on pourrait appeler les rites populaires et les récits populaires eux-mêmes. De sorte que c'est tout de même, pour un folkloriste, des contes très intéressants.
Oui, donc quand en 1835, à 30 ans, il publie son premier recueil de contes, d'ailleurs, on peut les dénombrer, et c'est peut-être parmi les plus émouvants qui sont publiés du premier coup, qu'est-ce qu'il sait de la culture populaire? Nous avons vu que Andersen, par sa famille, était très près de tout ce qui se racontait dans les rues, dans les chaumières aussi, et qu'il le connaissait et qu'on le lui avait raconté. Mais, par ailleurs, est-ce qu'il avait, en librairie, en bibliothèque, accès à des recueils plus vastes, à des enquêtes plus complètes?
Sûrement il a lu en danois, il a lu en allemand, il y avait beaucoup de choses publiées, et de temps en temps, au début même du conte, il le dit. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas du tout à dissimuler ses sources. Au début même du conte, il dit « Voilà un conte que vous avez souvent lu, vous avez l'impression de le connaître déjà, et il le raconte différemment. »
Oui, alors précisons, ce qui en fait l'intérêt. À la même époque, à travers toute l'Europe, des gens partent à faire la récolte et engrangent cette mythologie populaire qui nous est très précieuse, puisque beaucoup de choses y sont conservées, et puis nous les avons vivantes. Alors...
C'est un peu tôt. C'est-à-dire que en France,
il vient avant les autres.
En France, il y a uniquement la société des celtisans qui fait parvenir un questionnaire un peu dans toutes les provinces. En Allemagne, bien sûr, c'est déjà fait. Et les frères Grimm sont en activité, mais ce n'est pas le grand moment des folkloristes ça se situe plutôt autour des années 1870. Hein.
Bien.
On a tout de même un intérêt à cette époque. Bien sûr, on a un contemporain en France, c'est Nerval.
C'est Gérard de Nerval. Alors situons-le, c'est quand même important. Disons que déjà un certain nombre de pays ont publié leur Odyssée, hein, ont retrouvé leur Odyssée, même si elle n'est pas exacte. Ossian, Macpherson, d'une part, le Kalevala en Finlande. Déjà, les peuples ont eu besoin de se donner référence à leur fondement pré-chrétien. Est-ce qu'on peut discerner dans le travail d'Andersen une volonté semblable?
C'est-à-dire, c'est bien sûr une sorte de saga, sûrement, mais c'est la saga du monde moderne. Ce qui est très différent, c'est qu'il ne cherche absolument pas à avoir des personnages héroïques dans la grande tradition, disons, de l'épopée. Et ça n'a rien non plus de mythologique. Il y a très peu d'allusions mythologiques. Ce sont des personnages qui, pour la plupart, dans le détail des objets, par exemple, qu'ils rencontrent, sont des personnages contemporains. Ce qui, probablement, cette sorte de modernisation du conte populaire, mais une modernisation qui n'est pas forcée, fait qu'il y a eu un impact tout de suite, car les gens ont pu s'y retrouver, finalement, beaucoup plus que dans le conte populaire traditionnel qui est plus atemporel.
La malle volante.
On était le samedi. Le roi, la reine et toute la cour prenaient le thé chez la princesse et attendaient. Le jeune homme fut reçu très aimablement. « Eh bien, voulez-vous nous dire un conte ?» dit la reine. « Un conte qui soit profond et instructif. Mais où il y ait tout de même de quoi rire, » ajouta le roi. « Oui, je peux, » dit le jeune homme. Et il conta. Écoutons-le bien.
Quand on parle de contes populaires, c'est un peu inexact. Ce sont les contes de la population, les contes du peuple dans sa totalité.
Sûrement. Sûrement, je ne pense pas que c'était réservé à ce moment-là à une classe sociale. On a eu l'habitude de... D'ailleurs, vous savez, c'était au fond... C'était déjà sûrement pas le milieu simplement paysan. N'appartenait pas au milieu paysan. Son père cordonnier, les cordonniers sont célèbres depuis le Moyen-Âge comme des conteurs. Ils n'arrêtent pas de parler dans leur échoppe. Ils ont généralement un petit oiseau à côté d'eux qui parle, auquel ils apprennent à parler. Et quand on veut entendre conter, on va chez eux ou parfois chez le forgeron. On se réunit chez le forgeron parce qu'il fait chaud. Mais dans les petites villes aussi, bien sûr.
Il était une fois un paquet d'allumettes. Elles étaient très fières à cause de leur haute origine. Leur arbre généalogique, c'est-à-dire le grand pin dont chacune était une bûchette, avait été un grand vieil arbre de la forêt. Les allumettes étaient maintenant sur la tablette, entre une lampe et une vieille marmite de fer, et elles racontaient leur jeunesse. Oui, nous étions alors sur une branche verte, disait-elle. C'était vraiment la prospérité. Matin et soir, thé pur comme le diamant, c'était la rosée. Toute la journée, le soleil, quand le soleil brillait. Et tous les petits oiseaux devaient nous conter des histoires. Nous pouvions observer combien nous étions riches, car les arbres à feuillage n'étaient habillés qu'en été, tandis que notre famille avait les moyens d'être en vert, l'hiver comme l'été. Mais les abatteurs d'arbres sont venus et ce fut la grande révolution. Notre famille fut dispersée. Son chef, le tronc, a trouvé place comme grand mât sur un magnifique vaisseau qui pourrait faire le tour du monde s'il voulait. Les autres branches sont allées ailleurs et nous avons la charge d'allumer la lumière pour les gens de bas étage. Voilà comment nous, gens de qualité, sommes venus ici dans la cuisine.
Nous avons déjà une première image d'Andersen, qui n'est pas un folkloriste, qui est branché sur la littérature originelle, on peut dire, sur les mythes originels, et qui les diffuse dans une classe sociale, peu importe laquelle. Vous nous avez dit que ce n'était pas tellement important. On verra tout à l'heure, si vous le voulez bien, ces sources internationales. Je voudrais qu'au début, on essaye de trouver ce qu'il y a de typiquement danois dans ces contes.
C'est difficile et j'avoue que je commence à le comprendre après un petit séjour au Danemark. D'abord, il y a la très grande importance du monde, disons, de l'intérieur et des objets de l'intérieur que l'on ne comprend que dans un pays nordique dans lequel on est en contact pendant plusieurs mois et en contact très proche tous les mois d'hiver, avec les objets près desquels on est enfermé.
Mon sort est bien différent, dit la marmite de fer qui était à côté des allumettes. Depuis que je suis venue au monde, on m'a récurée et fait bouillir bien des fois. Je me charge du substantiel et suis à proprement parler le premier ici, dans la maison. Ma seule joie est, après le repas, de reposer propre et net sur la tablette et d'avoir une conversation sensée avec les camarades. Mais si j'accepte le seau d'eau qui de temps en temps descend dans la cour, nous vivons toujours entre quatre murs. Le seul qui nous apporte les nouvelles est le panier du marché, mais son bavardage sur le gouvernement et le peuple est bien incohérent. Il y avait même autrefois un vieux pot qui en fut tellement effrayé qu'il est tombé et s'est cassé. Le panier a des idées hardies, vous savez.
Oui, c'est la nuit à 4h30, 5h, on rentre et jusqu'au lendemain 8h.
J'ai l'impression que tant que... J'avoue que... Je ne comprends pas le rôle très important de la bouilloire, de la théière, par exemple, autour de laquelle se forme toute une série de rêveries, si l'on n'a pas passé de ces journées où, en effet, pendant très longtemps, on est en contact constamment avec ce type d'objets domestiques. Et c'est très important pour lui parce qu'ils sont... ils sont l'occasion de rêveries. Un bonnet de nuit, par exemple, va être la seule vue d'un bonnet de nuit qui a accompagné un malheureux commis au poivre jusqu'à sa mort, va être pour lui l'occasion d'une rêverie. Et on sent la mort par le froid, car la mort par le froid est bien sûr très importante. Et là aussi, il y a un élément, bien sûr... absolument, qui ne se comprend que si l'on a un peu subi une sorte de froid minéral, Il y a un monde minéral et glacé, cruel, brusque, qui saisit dès que l'on quitte ces objets et qui ne peut être compris que, peut-être que face à la mer danoise, qu'il va retrouver même, par exemple, avec la mort, avec la Vierge des Glaciers, la mort de Rudi, où brusquement c'est le baiser du froid, le baiser de la Vierge des Glaciers qui saisit brusquement tous les membres. C'est-à-dire qu'il y a une mort minérale que l'on... Enfin, bien sûr, on pense tout de suite à la petite fille aux allumettes, avec cette petite partie de l'intérieur de la maison qui, grâce aux allumettes, c'est la grand-mère, qui, grâce aux allumettes, va au dernier moment illuminer. Car les morts sont toujours celles du froid, c'est-à-dire des morts douces, où les gens, brusquement, ont l'impression que des fleurs tombent sur eux, qu'ils reviennent au printemps. C'est-à-dire, probablement, la mort, en effet, du froid, dans laquelle on ne se débat guère, on se sent engourdi peu à peu, et l'on pénètre dans ce monde minéral et dans l'au-delà.
La petite fille aux allumettes. Il faisait affreusement froid. Il neigeait et il commençait à faire sombre. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Par ce froid et dans cette obscurité, une petite fille marchait dans la rue, tête nue et pieds nus. Oh, elle avait bien eu des pantoufles aux pieds lorsqu'elle était sortie de chez elle, mais à quoi bon ? C'était de très grandes pantoufles. Sa mère les avait mises en dernier lieu tant elles étaient grandes, et la petite les avait perdues en se dépêchant de traverser très vite. L'une des pantoufles fut impossible à retrouver, et un garçon courait avec l'autre en disant qu'elle pourrait lui servir de berceau quand il aurait des enfants. Tu la connais cette histoire ? C'est la petite fille aux allumettes ?
Pas tellement.
La signification rêveuse, hein, des objets serait un trait qui appartiendrait en propre à Andersen et qu'on ne retrouverait pas fréquemment dans les autres contes des autres pays.
Non, je pense qu'on trouve très peu de contes où le héros est un objet. Je pense au chandelier. Il y a énormément d'objets quotidiens qui vont se retrouver héros du conte. Il y a un seul peut-être qui appartient à la tradition populaire, c'est l'histoire du lin. L'histoire du lin appartient sous la forme de chansons à la tradition populaire, car on a dans toute l'Europe des chansons parlant de la souffrance du lin, de sa transformation. Mais là encore, la manière même dont Andersen a repris ce thème, qui est un thème de chansons populaires, a été extrêmement, extrêmement modifié.
Et quand dans la chanson bien connue en France, où il y a un chien, un bâton, un chou, une chèvre...
Ah, ce sont les randonnées, ce sont les chansons circulaires choix. Comme ça, c'est autre chose. Et c'est des chansons, c'est pas les contes. Mmh. Alors, on a des contes, bien sûr, avec des animaux.
Oui, mais...
Ce qui est... disons, la fable n'existe pas. Il faut faire très attention. La fable proprement dite, le type même de fable, n'existe guère dans Andersen. C'est pas encore la fable, c'est-à-dire les récits d'animaux à enseignement. Pas du tout. Et au fond, les animaux mêmes qui apparaissent ne sont pas des animaux de fable. Ce sont des animaux, enfin bien sûr, qui vont donner une leçon, bien sûr, comme l'évolution du vilain petit canard. Je ne crois pas qu'on ait de ce type de conte. Je ne crois pas qu'on puisse le retrouver dans la tradition populaire.
La petite fille marchait donc avec ses petits pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid. Elle serrait dans un vieux tablier une quantité d'allumettes soufrées et tenait un paquet à la main en marchant. De toute la journée, personne ne lui en avait acheté. Personne ne lui avait donné le moindre sou. Elle avait faim, elle était gelée, elle avait un aspect lamentable, la pauvre petite. Les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux dorés qui bouclaient joliment dans son cou, mais elle ne pensait pas à cette parure. À toutes les fenêtres brillaient les lumières, et une délicieuse odeur d'oie rôti se répandait dans la rue. Car c'était la veille du jour de l'an, et ça, elle y pensait. Ça commence tristement, hein, cette histoire. T'aimerais être à la place de la petite fille ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que j'aimerais pas être nue dans la neige, moi.
Moi non plus.
Pour rester sur le plan typiquement danois des contes d'Andersen, il me semble que, puisque nous avons la chance de connaître sa vie, ce conteur-là s'est beaucoup raconté dans ses contes. Est-ce que à la lecture des contes du monde entier, on a le sentiment que l'auteur, inconnu bien sûr, se raconte aussi.
Car jamais, enfin, jamais, il n'y a pas d'auteur de contes populaires, ça c'est la première, c'est la
il est absent.
Par définition, il n'y a pas d'auteur du conte populaire, et quand on peut distinguer entre différents conteurs, c'est-à-dire lorsque le conteur essaie de faire passer, ferait passer un peu de sa personnalité dans le conte populaire, on sait, tous les folkloristes savent, que l'on s'éloigne, mais de manière résolue, du conte populaire. Et que le propre du conte populaire, c'est un récit dont le conteur n'est que le transmetteur, absolument. Et lorsqu'il essaye de faire passer soit sa propre émotion, par exemple, soit sa propre histoire, en fait, disons, on est là très loin, très très loin du conte populaire. Alors que c'est un peu l'inverse dans le cas d'Andersen, c'est-à-dire qu'il a choisi des contes populaires et que de manière récurrente, là, constamment, on sent qu'il a éprouvé le besoin d'exprimer ses problèmes, ce qui fait qu'il y a entre autres un élément qui apparaît très rarement dans les contes populaires, qui est l'émotion. L'émotion, soit lorsqu'il parle des femmes, bien sûr, surtout de la mère. Et il y a à l'intérieur deux contes populaires, par exemple, où il y a un conte populaire très beau où la mère veut sauver son enfant et suit la mort. Dans Andersen, elle suit la mort et puis finalement elle voit le destin de deux enfants, dont un doit être un destin très dur, effroyable, et l'autre doit être un destin brillant. Elle ne sait pas lequel. Son enfant, lequel destin est attribué à son enfant, et finalement elle supplie brusquement. Elle supplie brusquement la mort de prendre son enfant. Et la mort lui a donné une leçon, c'est un conte populaire connu, c'est-à-dire que la mort lui a donné une leçon qui est que nous ne connaissons pas le destin, et qu'en conséquence, il ne faut pas tant que. Donc au-delà, nous ne savons pas ce qu'il en est, il ne faut pas prendre de décision. Eh bien, Andersen a su traiter cela avec toute une série d'éléments d'émotion.
Dans un angle entre deux maisons, dont l'une avançait un peu plus que l'autre dans la rue, elle s'assit et se blottit. Elle avait replié ses petites jambes sous elle, mais elle avait encore plus froid. Et elle n'osait pas rentrer chez elle, car elle n'avait pas vendu d'allumettes, et pas eu un sou. Son père la battrait. Et il faisait froid aussi chez eux. On n'avait que le toit au-dessus et le vent sifflait jusque dedans, malgré la paille et les chiffons qui bouchaient les plus grosses fissures. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Oh, comme une petite allumette pourrait faire du bien. Si elle osait en tirer rien qu'une du paquet, la frotter contre le mur et se réchauffer les doigts. Alors tu sais ce qu'elle va faire ?
Elle va allumer une allumette.
Et alors ? Elle en tira une. Pfft ! Comme le feu jaillit, comme elle brûla. Ce fut une flamme chaude et claire, comme une petite lumière qu'elle entoura de sa main. C'était une drôle de lumière. Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer à boules de cuivre et tuyaux de cuivre. Le feu brûlait délicieusement. Il réchauffait très bien. Non ? Qu'est-ce qu'il y a ? La petite fille étendait déjà les pieds pour les réchauffer aussi. Quand la flamme s'éteignit, le poêle disparut. La fillette resta avec un petit bout d'allumette brûlé à la main.
Par exemple, la mère accepte d'avoir brusquement les cheveux blancs. La mère accepte brusquement d'être très vieille, d'avoir très froid, d'avoir très mal. Elle accepte tout ce qu'une mère accepte, en fait, pour son enfant. Là, on peut dire que c'est la sensiblerie du 19e, mais ce ne sont pas des éléments du conte populaire. Il les a rajoutés, et je pense, quand on sait que sa mère, par exemple, était lavandière, moi j'ai connu des lavandières qui revenaient en pleurant dès le mois de décembre, chaque fois qu'elles allaient à la rivière, elles revenaient en pleurant de froid. Et je crois qu'il a, c'est quelque chose qui l'a frappé, que sa mère ait pu comme ça se sacrifier dans un travail qui a toujours été considéré comme un travail très dur. Chose curieuse, je n'ai pas vu un seul conte où apparaisse une lavandière, alors que le personnage de la lavandière est fondamental dans les contes populaires. C'est la fée, lavandière, partout, elle est dans son baquet, entraînée par des cygnes souvent, et elle favorise la naissance ou elle entraîne la mort. C'est un personnage très double, mais qui a été bien étudié dans la tradition irlandaise, dans la tradition française, la lavandière. Or, là, ce n'est que la mère qui apparaît. Et il devait connaître, il ne me paraît pas possible qu'il ignore le personnage de la lavandière, qui apparaît dans, les, dans la mythologie allemande, par exemple. Bien souvent, la fée lavandière, c'est celle qui annonce la mort du héros, par exemple. Ou en tordant le linge du héros, on voit dégoutter du sang, c'est un signe de la mort qui s'approche. Eh bien là, non. Le personnage a été gommé entièrement, mais je pense se retrouve avec ce froid, avec cette souffrance dans le froid, avec le passage près de enfin tous les passages à travers l'eau qui jouent un rôle très important.
Elle alluma encore une allumette. Elle se trouva alors assise sous un superbe arbre de Noël. Il était encore plus grand et plus paré que celui qu'elle avait vu par la porte vitrée chez le riche négociant au dernier Noël. Des milliers de lumières brûlaient sur les branches vertes et des images bariolées comme celles qui ornent les fenêtres des boutiques, regardait la petite, étendit les mains en l'air et l'allumette s'éteignit. Les nulpipes, lumières de Noël, montèrent de plus en plus haut. Elle vit qu'elle était devenue les étoiles scintillantes. L'une d'elles fila et traça une longue raie lumineuse dans le ciel. En voilà une qui meurt, dit la petite. Car la vieille grand-mère, la seule personne qui avait été bonne pour elle, mais qui était morte maintenant, avait dit « Quand une étoile tombe, une âme monte vers Dieu. »
Maintenant que nous avons vu en quoi les contes d'Andersen sont des contes personnels, ce qui est peut-être contraire à la tradition, et nationaux, c'est-à-dire danois, est-ce que nous pouvons voir en quoi ils se rattachent à une tradition dont nous savons qu'elle est internationale?
Je pense qu'on peut mettre un numéro précis sur plus de moitié des contes, sûrement. Pour les autres, on peut retrouver un travail qu'il faudrait voir dans le détail, d'utilisation de ce que nous appelons en folklore les motifs. C'est-à-dire de petites parties de contes qui peuvent être utilisées ici ou là dans ce qu'on appelle des contes types. Par exemple, disons le motif de la reconnaissance du héros ou de l'héroïne par l'intermédiaire d'un objet, le plus souvent une bague. Bon, ça on va le retrouver ici ou là. Par exemple, le motif de la transformation, de la métamorphose ou du retour à la forme humaine à la suite d'une série d'épreuves. Tout ça, ce sont des motifs, on les retrouve dans Andersen. Alors, il y a comme me semble-t-il comme grande source de contes qu'il a sûrement lu, il y a par exemple le thème du chevalier au cygne. Le thème du chevalier au cygne qu'on retrouve, qui est médiéval, que l'on retrouve dans Grimm, qui est la transformation des 11 frères en cygnes. Et il faut, pour parvenir à les désenchanter, que la sœur tisse des chemises Il me semble, ce serait à vérifier, mais il me semble qu'Andersen rend la chose plus dure car ce sont des chemises d'ortie. Et là, je crois qu'il s'agissait à l'origine, dans le roman médiéval allemand, il s'agit tout simplement de chemises.
Précisant que les orties doivent être cueillies sur des tombes.
Alors, les orties sont cueillies sur des tombes.
Mal entretenues.
Voilà, mal entretenues. Bien sûr, ce sont des orties qui brûlent effroyablement. Et elles ne terminent pas tout à fait. Avant la fin du conte, les 11 chemises, et il reste le plus jeune frère, qui est arrivé sous forme de cygne, mais il manque une manche, et il garde d'un seul côté le signe de son appartenance d'autrefois, c'est-à-dire encore une aile de cygne. Eh bien, ça, ce détail, par exemple, ce détail existe, bien entendu, dans le roman médiéval, Chevalier au cygne, le roman allemand. Et vous savez que c'est à l'origine de toute la famille de Godefroy de Bouillon qui descendait du Chevalier au cygne.
On peut donc penser que s'il y a une base qu'il connaissait, qui était
oui, cette légende, certainement.
Il l'a reprise, il l'a repensée et il y a ajouté des détails.
Il y a ajouté quelques petits détails. On pourrait très facilement faire le bilan, une comparaison. Par exemple, le nom de l'héroïne qui s'appelle Elisa. Dans ce cas, le chevalier au cygne, dans le roman médiéval, s'appelle Elias. Et je pense que c'est la même racine et il a mis le nom de l'héroïne elle-même.
Les cygnes sauvages. Bien loin d'ici, au pays où s'enfuient les hirondelles quand nous avons l'hiver, habitait un roi qui avait 11 fils et une fille, Elisa. Leur père se remaria avec une reine méchante qui n'aima pas du tout les pauvres enfants. Ils purent s'en apercevoir dès le premier jour. Comme il y avait grande fête au château, les enfants jouaient à recevoir des visites. Mais au lieu de leur donner comme d'habitude tous les gâteaux et les pommes cuites que l'on pouvait trouver, elle ne leur donna que du sable dans une tasse de thé et leur dit de faire comme si c'était bon. La semaine suivante, elle plaça la petite sœur Elisa chez des paysans à la campagne. Et elle ne tarda pas à faire tant à croire au roi sur les pauvres princes qu'il ne se soucia plus d'eux le moins du monde. « Envolez-vous dans le monde et gardez-vous vous-même, dit la méchante reine. Envolez-vous comme de grands oiseaux, mais sans voix. » Elle ne put cependant pas rendre cela aussi vilain qu'elle l'aurait voulu. Ils devinrent 11 superbes cygnes sauvages. Avec un cri singulier, ils s'envolèrent par les fenêtres du château, au-dessus du parc et de la forêt.
Lorsqu'ils se lancent dans les transformations, elles sont très personnelles. Elles sont très personnelles, c'est-à-dire qu'ils désirent tout de même donner du sens à un conte. Or, à l'exception de certains récits populaires que l'on appelle les récits d'enseignement, les récits d'avertissement plus particulièrement, la plupart des contes sont amoraux, disons, n'ont pas de morale. Sûrement pas. Ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de ces récits, bien que Andersen nous épargne la morale. Il est très rare qu'il l'indique, c'est des petites notations comme ça au cours du récit. On ne peut pas en faire non plus une sorte de moralisateur pesant, sûrement pas.
Il y a souvent chez Andersen des moments où il dit comment on doit se comporter les bons enfants.
Quant aux enfants, ça c'est un autre problème, celui des enfants. Là, j'ai l'impression qu'il a... D'abord, il les a écoutés. Et il a été très surpris, me semble-t-il, assez souvent de leur cruauté. Il a été très attentif au langage enfantin, ce qui est assez original à son époque. Et il les décrit assez bien. Et il les décrit souvent... comme inconsciemment, comme ils sont, c'est-à-dire inconsciemment cruels. Il y a un récit très curieux où il évoque des propos d'enfants. Ce n'est pas un conte. Disons, c'est un récit, il dit, c'est dans la maison bourgeoise, de tels conseillers que des enfants se réunissent. Et puis, se mettent à parler, et entre autres, ils se mettent à parler de ce qu'est être bien né. Et très curieusement, il y a une petite fille qui, elle, s'estime bien née. Née. Elle ne dit même pas bien-née, mais née, simplement, et se met les mains sur les hanches, comme ça, et dit, eh bien, jamais quelqu'un dont le nom se termine par « saine » ne peut être bien-née. Elle a décidé ça. Comme ça. Alors, on s'attend un peu à ce qu'Andersen dise, eh bien, il y a quand même des gens dont le nom se termine par Sen et qui ont bien réussi. Or, il n'a pas osé dire Andersen, chose curieuse, mais il dit, eh bien, des années plus tard, il donne le destin de chaque enfant, et il y a un petit enfant qui était là en train d'écouter, qui était Thorvaldsen, bien sûr, son ami le sculpteur, et lui qui a bien, très bien réussi, bien qu'il ait un nom en Sen. Mais c'est ambigu d'abord parce que, bien sûr, il ne pouvait pas dire en un sens Andersen, et d'autre part, on a l'impression tout de même, puisque cette histoire de nez, c'est-à-dire de noblesse en fait, on a l'impression qu'il savait dès le départ qu'il n'était pas né, et que n'étant pas né, il resterait toujours un Sen.
Un vilain petit canard.
C'est-à-dire, j'ai l'impression, quelle que soit la réussite, puisqu'aussi bien, comme il dit, toutes choses reviennent en place, chaque chose à sa place, eh bien, il ne pouvait pas concevoir un projet, disons, prométhéen de renversement, sûrement pas.
Ce fut le matin de très bonne heure qu'ils arrivèrent à l'endroit où leur sœur Elisa était couchée et dormait dans la maison du paysan. Ils planèrent au-dessus du toit, tournèrent leur long cou, battirent des ailes, mais personne ne les vit ni ne les entendit. Ils durent repartir volant haut près des nuages, loin dans le vaste monde. Ils volèrent ainsi dans une grande forêt sombre qui s'étendait jusqu'à la côte. La pauvre petite Elisa était dans la salle du paysan et jouait avec une feuille verte. Elle n'avait pas d'autre jouet. Elle piqua un trou dans la feuille, regarda le soleil au travers, et il lui sembla voir les yeux clairs de ses frères. Et chaque fois que les chauds rayons du soleil luisaient sur ses joues, elle pensait à leur baiser.
Un conte populaire n'apporte pas d'enseignement.
Du tout.
Non. Un conte populaire...
De n'importe quel ordre. Ni moral, ni amoral.
Non, ni moral, ni amoral. Non, un conte populaire, ce n'est pas son propos, la morale. Son propos, c'est d'expliquer l'aventure d'un héros dont on assiste à la naissance, souvent particulière, dont on assiste aux aventures, dont on assiste au mariage manqué, c'est tout. Mais le fait que Perrault ajoute une morale, c'est son affaire absolue, ou que Madame Donoy ajoute une morale, mais jamais ces morales n'apparaissent dans les récits populaires.
Précisons, dans ces récits populaires, est-ce qu'il y a un destin quand même ?
Il y a un destin qui est celui du héros, marqué dès le départ.
Juste ou injuste ?
Là aussi, ce n'est pas le problème. Ce n'est jamais le problème. La justice n'est jamais le problème. Disons, Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient pas, on va rencontrer le diable, on va se battre contre lui. On ne se bat pas contre les forces méchantes quand on rencontre le diable. Quand on épouse la fille du diable dans un des contes les plus répandus dans tout le domaine européen, on épouse la fille du diable, ce n'est pas un problème en rapport avec la méchanceté.
Alors,
avec la bonté, ou avec... ni même avec le beau, le vrai, le bien, tout ça, ce sont des concepts... qui ne les concerne pas.
La fée Morgane lui dit « Écrase les orties avec tes pieds et tu auras du lin. Tu en tisseras et tailleras 11 cottes de mailles à longues manches. Tu jetteras ces cottes de mailles sur les 11 cygnes sauvages et la magie sera rompue. Mais rappelle-toi bien que dès l'instant où tu auras commencé ce travail et jusqu'à ce qu'il soit achevé, même si cela doit prendre des années, tu ne dois pas parler. » Le premier mot que tu prononceras ira comme un poignard meurtrier droit au cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie. Retiens bien tout cela. » Et la fée passa l'ortie sur la main d'Elisa qui fut ainsi réveillée. C'était comme un feu dévorant. Il faisait grand jour et tout près de l'endroit où elle avait dormi se trouvait une ortie pareille à celle qu'elle avait vue en rêve. Alors elle tomba sur ses genoux, remercia notre Seigneur et sortit de la grotte pour se mettre au travail.
Donc, quant au rapport d'Andersen avec le récit populaire, il est un peu comparable, vous l'avez dit à l'instant, mais je voudrais que vous le précisiez, à celui qu'ont entretenu avec le récit populaire aussi bien Charles Perrault que Madame d'Aulnoy que d'autres, hein, écrivains.
Peut-être pas tout de même. Il me semble que Perrault a moins modifié en un sens, si on voulait. On ne sait pas. Peut-être a-t-il beaucoup plus modifié dans le style et moins dans le contenu. Il faudrait voir dans le détail, mais c'est l'impression que ça me donne généralement. Le cas de Madame Donoy, c'est plus compliqué encore, car c'est très difficile de savoir quels sont les éléments populaires de Madame Donoy. Vous savez, on avait bien d'autres recueils antérieurement, au XVIe siècle. On avait des recueils de contes populaires.
Quant aux frères Grimm ?
Ah, les frères Grimm font déjà, bien sûr, du travail absolument de folkloriste, c'est-à-dire ils ont recueilli, ils indiquent auprès de qui ils ont recueilli, ce qui nous permet, par exemple, actuellement, de savoir qu'un certain nombre de récits recueillis par les frères Grimm n'appartiennent pas du tout à la tradition allemande, avaient été recueillis auprès de descendants d'émigrés français, de protestants, émigrés français qui étaient allés là-bas. C'est le cas, par exemple, du Petit Chaperon Rouge.
Alors, quand la première fois Andersen est allé voir les frères Grimm, il n'a pas été très bien reçu. Est-ce qu'il y aurait une explication à cela ?
J'ai l'impression que les frères Grimm, ils étaient reconnus comme des savants dans toute l'Europe. Je me demande s'ils avaient beaucoup de choses à demander à Andersen.
Oui, mais peut-être qu'ils le considéraient comme un écrivain. C'est-à-dire quelqu'un qui, au fond, ajoutait, alors qu'eux étaient des gens qui enregistraient.
Peut-être même les frères Grimm craignaient-ils que des contes populaires trafiqués, ainsi, ne reviennent à la tradition populaire et ne rendent beaucoup plus difficile le travail des folkloristes, qui sont des gens qui recherchent une tradition populaire pure, dans la mesure du possible, qui leur permettent de comparer les thèmes, les motifs. Et ils devaient être assez mal à l'aise de voir cet arrangeur, qui n'était pas original à l'époque, il faut le répéter, il n'est quand même pas le seul à arranger les contes populaires. Mais disons qu'il devait présenter peu d'intérêt scientifique pour les frères Grimm, sûrement.
De ses mains délicates, elle empoigna les vilaines orties. Elles étaient comme du feu. De grandes cloques lui brûlaient les mains et les bras, mais elle voulait bien endurer cela, pourvu qu'elle pût sauver ses chers frères. Elle écrasa les orties avec ses pieds et tordit le lin vert. Lorsque le soleil baissa, les frères arrivèrent et furent effrayés de la trouver si muette. Ils crurent que c'était une nouvelle magie de leur belle-mère. Mais quand ils virent ses mains, ils comprirent ce qu'elle faisait pour eux. Et le plus jeune frère pleura. Et à l'endroit où ses larmes tombaient, elle ne sentait plus de douleur. Les cloques brûlantes disparaissaient. Elle passa la nuit à son travail, car elle n'avait de cesse qu'elle n'eût sauvé ses chers frères. Toute la journée suivante, pendant que les cygnes étaient partis, elle resta dans sa solitude. Mais jamais, jamais le temps ne s'était écoulé si vite. Déjà une cotte de mailles était achevée. Elle commença la seconde.
Est-ce qu'on peut dire que Andersen, dans ses contes, qui sont la part la plus connue de son œuvre, a laissé une vision, une somme de pensée de son temps?
Il me semble qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'il exprime directement, c'est-à-dire une morale. Et celle-ci, on peut la retrouver, elle est ambiante, elle est... Et puis, une position qu'on peut appeler métaphysique vis-à-vis de la mort, qu'il exprime dans très peu de contes. Et on peut dire que, de manière presque typique, il y a un conte, un des rares contes où il se soit interrogé sur le devenir de l'âme après la mort, et de manière précise, il l'a intitulé « Le livre muet ». C'est l'histoire de quelqu'un qui sait beaucoup de choses, plus de choses même que Salomon, qui est réfugié avec ses quatre fils dans un château. Et il s'interroge et il possède un livre qui parle de tout. Mais la page qui pose la question « Que devenons-nous après la mort ? Que devient notre âme ?» est illisible. On ne peut absolument pas voir la moindre ligne. Et alors, il envoie ses fils à la recherche de ce qui pourrait éclairer cette page, et ils échouent. Ils échouent sa fille seule, qui est aveugle, parvient, au bout d'un moment, en se guidant avec un fil, à revenir. Et lorsqu'elle illumine cette page, la réponse, la seule réponse à ceci, qui semble-t-il est un mot clé pour Andersen, c'est le mot « foi ». Et c'est, me semble-t-il, le seul conte dans lequel, dans le détail, soit posé de manière... Il a craint cette question, en général. Là, il lui donne une réponse uniquement religieuse, mais vous voyez, d'une religion qui ne fait plus appel aux images, qui fait appel uniquement, tout se résumant, dans le seul mot de « foi ». Ce qui, probablement, là aussi, pourrait se comprendre dans le contexte religieux, luthérien, qui essaye d'éviter le plus possible le recours aux images. À l'inverse, puisqu'il pense en images, à l'inverse, il y a tout de même tout un panthéon qui ressurgit, mais cette fois-ci, sans qu'il le veuille, en quelque sorte, qui ressurgit dans ses contes. Alors, soit le panthéon des dieux scandinaves, qui ressurgit, par exemple, lorsqu'il s'arrange pour parler de la semaine, et qu'il fait surgir la déesse Freya, qu'il fait surgir Odin, qu'il fait surgir Tyr.
À Odense, nous sommes dans la ville d'Odin.
Alors, bien sûr, là, on sent qu'il le savait parce qu'il avait lu les gens qui s'occupaient de ce qu'on pourrait appeler les antiquités nationales à l'époque, qui étaient à la limite, en France sûrement, à la limite du folklore. Ce sont les antiquaires, il ne faut pas oublier que ce sont les antiquaires qui, les premiers, commencent à s'intéresser, à interroger, parce qu'ils espèrent, entre autres, découvrir des sites à l'aide des récits, ou découvrir des récits en France druidiques. Ici, scaldique, si l'on veut. Ils espèrent qu'il y aura ainsi un approfondissement de l'archéologie même. Alors, on voit donc apparaître cette mythologie, et puis une mythologie extrêmement orientale, bien sûr. D'une part, une mythologie assez légère, celle des mille et une nuits, puisqu'il utilise les mille et une nuits. Et enfin, ce qu'on pourrait appeler un paganisme chrétien. Et j'ai l'impression que l'ensemble du culte des saints, qui était très développé avant la Réforme, va ressurgir dans les images même des contes, avec cette présence constante, me semble-t-il, tout de même de la Vierge. Quand bien même elle apparaît, bien sûr, puisqu'il y a une église qui lui est dédiée, si l'on peut dire ici, ou dont le nom encore, car les dédicaces ont changé, si l'on peut dire, mais dont le nom encore est inscrit. Ce qui serait très curieux, c'est d'en savoir plus précisément sur cette inscription des saints, des saintes, dans un monde luthérien. C'est-à-dire, tout ce qui a été refusé officiellement, a-t-il pu trouver d'autres modes d'expression? J'étais très frappé en posant la question ici que l'on me dit non, personne ne sait quand est le jour de la Saint-Martin. On sait en tout et pour tout quand est le jour de la Saint-Jean, car c'est celui du grand feu.
Oui, en tout cas, cette présence des saints, elle est dans l'œuvre d'Andersen. Cela fait
Jamais explicitement.
Dit, bien sûr. Mais cela fait, vous l'avez dit, un panthéon assez curieux quand même.
Oui, dans lequel, le panthéisme d'Andersen se meut relativement à l'aise. On n'a pas du tout le sentiment qu'il ait cherché à les séparer. Et en fait, il y a tout de même des éléments qui appartiennent, cette fois-ci, à un fond beaucoup plus ancien, c'est les métamorphoses. Et, par exemple, un personnage qui tout de même est un personnage humain, comme le cygne, quand il utilise le récit du chevalier au cygne, lorsqu'il désigne l'ensemble du Danemark comme le nid de cygne, d'où sont parties toutes les invasions, il a constamment à l'esprit le fait que sous toute enveloppe de cygne, il y a un homme, et à la limite que dans tout homme il y a un signe. Ce qui est la base de la pensée populaire, par exemple même pour le loup-garou. En fait, l'homme est le signe pour la pensée populaire, puisqu'il y a si souvent des transformations en signes, avec la petite chemise de plume dans les contes populaires, l'homme et le signe sont un même être qui apparaît, suivant les circonstances, sous l'une ou l'autre face. Et la chance, peut-être, d'Andersen a été de pouvoir vivre comme un signe, c'est-à-dire de faire ces immenses voyages où il suit le trajet des signes, où il s'imagine à un moment, dans certains contes, il s'imagine en compagnie des cigognes, en train de se remplir le ventre de grenouilles au bord du Nil. Il s'imagine revenant ensuite, c'est-à-dire qu'il est toujours entre le Danemark et l'Orient, et il a commencé en imagination à voyager comme nous voyageons en avion. Ce qui est très curieux. D'abord sur le dos des signes, car ces personnages y sont souvent, ou sont des signes, et font un peu comme dans certains poèmes, où brusquement on aperçoit comme ça, très bas, quelque part, une sorte de petite chose qui bouge. Oh, une baleine! Ou cette chose qui avance tout doucement, oh, un navire. Bien sûr, pour nous, ce n'est plus surprenant. À l'époque, il fallait être sur les ailes de l'imagination pour le voir. Et il le prolonge de manière facétieuse un jour, car cette migration l'intéresse, parce qu'elle s'accompagne d'une transformation de l'être. Parce qu'il y a possibilité, soit au retour, soit à l'aller, que brusquement, l'être se transforme, l'homme deviennent véritablement signes, prennent son envol vers le ciel. Et puis, il s'amuse lorsqu'il retrouve le monde moderne, un peu absurde, puisqu'il imagine ce qu'il appelle la visite de l'Europe en 8 jours pour des jeunes Américains qu'il situe quelque part dans l'an 2000 ou un peu au-delà. Et il imagine, grâce à la vapeur d'ailleurs, traversant sur ce qu'on pourrait appeler un avion, un aéronef, traversant l'Atlantique, les Américains qui arrivent, les jeunes Américains, et puis qui visitent, qui disent « Oh, quand même, la France, Molière, Racine, tout ça, il faut bien un jour pour la France. » Et qui visitent la France, et puis qui vont tout de suite en Italie à toute vitesse, et qui écrivent ensuite quelque chose qui s'appelle, c'est quand même quelque chose qui est écrit dans les années 1850, quelque chose qui s'appelle « L'Europe en 8 jours ». On a l'impression de l'Europe à quelques dollars que nous connaissons maintenant.
Da halten die Hochzeit mit Tanz und mit Spiel. Dem fröhlichen Blicke der Wein so rot. Die Braut nur gleich dem getünchten Tod. Ich möchte den Kopf mischen.
mit Finger zeigen auf mich.
Un jour, Andersen écrivit dans la neige. L'immortalité est comme la neige, demain, elle aura disparu. Et un peu plus tard, il repassa, la neige était tombée sur ce qu'il avait écrit, et le seul mot qu'il restait était le mot « immortalité ».
C'était « Un homme, une ville », Hans Christian Andersen à Odense, par Pierre Descargues, troisième et dernier épisode, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 mars 1981. Vous pouvez la réécouter et la télécharger en ligne, de même que les deux autres épisodes de cette série, sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».